Préambule. Au nom du droit des peuples et de rappeler, selon les textes constitutionnels en vigueur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Visant la violation des libertés, la violation des droits fondamentaux, la violation de l'inviolabilité du domicile, la violation du droit à l'autonomie personnelle, le crime contre l'humanité, l'atteinte à la dignité humaine, la servitude, le genocide. Droits inaliénables et imprescriptibles. Concernant la France. Objet. Plainte, faisant corps avec la mise en demeure, piéçant, pour crime contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine, mise en servitude, génocide et tout autre fait, contre les personnes nommées ci-dessus pages 3 et 4, et tout autre auteur, impliqué dans les infractions, demande que soient ordonnées les mesures coercitives nécessaires à l'établissement des faits, les saisies de documents, dossiers, courriels, notes internes, procès-verbaux de conversation, etc., demande que soit interrogée également toute autre personne ayant contribué, directement ou par complicité passive, à ces crimes, et que soit entendue toute autre personne portant des faits profitables à l'établissement de la vérité. 6. Recevabilité de la plainte. La France fait partie des pays signataires de toutes les conventions internationales, et reconnaît la CPI. La CPI, Cour pénale internationale, est compétente en la matière au vu des chefs d'accusation. Le requérant n'a posé aucun recours dans son pays, le droit privilège de l'État ne s'applique pas. L'État français a été interrogé préalablement, piéçant, sur les faits énoncés dans cette plainte, et a délibérément ignoré le contenu motivé de l'interpellation, démontrant ainsi sa volonté de n'engager aucune action à la recherche de la vérité. Les plus hautes juridictions françaises refusent de statuer en bon droit, et sont dans l'arbitraire. La plainte s'appuie sur des éléments factuels sérieux, tout commentaire journalistique ou conjecturel ont été écartés. Les faits de crime étant de portée générale sur la population civile, le requérant est directement concerné au titre de la défense de l'intérêt général, et de lui-même. Le droit international prévoit l'absence d'immunité pour les chefs d'État et leurs administrations en matière de crimes contre l'humanité, génocide et toute violation grave du droit international. La plainte est introduite contre des individus et non contre les États. Dès lors, la plainte est recevable pour l'ouverture d'une enquête. 7. Nous souhaitons exposer les questions et faits suivants. À question. 1. Y a-t-il réellement une pandémie? À quel point le virus est-il dangereux? Si oui, pourquoi la définition d'une pandémie a été modifiée et revue à la baisse par l'OMS en supprimant les deux derniers critères qui sont le nombre de maladies sérieuses et le nombre important de décès causés pour la déclencher, alors que l'OMS a déclaré que le taux de mortalité n'était pas plus mortel qu'une grippe normale, soit 0,14% dans le monde? Et ce sans rentrer dans la polémique du conflit d'intérêts en ce qui la concerne. 2. Le test RT-PCR est-il fiable? Pourquoi le test RT-PCR a été utilisé, et continue à être utilisé, alors qu'il a été réfuté par ses pairs, 22 scientifiques, et qu'une demande de rétractation a été déposée pour 10 failles majeures scientifiques, étant d'une telle grossièreté scientifique que le but délibéré était et est toujours de créer des faux positifs? 3. Les cas d'infection existent-ils réellement ou sont-ils le résultat du test RT-PCR, la nature de l'infection n'ayant jamais été recherchée? 4. Dans quel but avoir créé le concept des infections asymptomatiques, alors que le CDC dans deux rapports différents, et plusieurs scientifiques admettent que le test RT-PCR est incapable de relever le 2019 nCoV, que cette idée que les personnes seraient malades sans le savoir relève de la supercherie immunologique, et que les personnes sont en bonne santé? 5. Les masques chirurgicaux ou tissus sont-ils efficaces? Si oui, où sont les études? Dans quel but obliger les personnes à porter un masque, sachant que toutes les études depuis 1962 à 2021 démontrent l'inefficacité et la dangerosité des masques pour la santé? 6. Quel est le but de ces mesures anti-Covid qui imposent des confinements et des couvre-feux en privation de liberté physique? Le virus n'est-il dangereux que selon certaines plages horaires, et que dans certains environnements de travail, alors que toutes les études scientifiques démontrent l'inefficacité et la dangerosité de telles mesures provoquant des dommages incalculables par accroissement des décès, des suicides, des atteintes psychologiques, de la destruction des liens sociaux, de faillites d'entreprises par milliers, outre l'atteinte à la dignité humaine, l'humiliation, etc. Tout ceci reposant uniquement sur la base du test RT-PCR. 7. Le virus est-il d'origine humaine? Si oui, pourquoi il n'y a aucune poursuite, alors qu'il est établi avec certitude par des scientifiques et des études que le virus n'est pas zoonose? 8. Comment les dirigeants des États, relayés par une propagande médiatique exacerbée, dont les médias français payés par l'État, pièce 3, et pour certains, subventionnés par Bill Gates, peuvent-ils affirmer disposer de vaccins contre le Covid-19, qu'ils sont efficaces, qu'ils sont sûrs, alors que les laboratoires eux-mêmes refusent de les garantir en s'exonérant de toute responsabilité dans les contrats signés avec leurs commanditaires? Une telle affirmation ne constitue-t-elle pas une de tromperie criminelle soumettant la population à une expérimentation médicale généralisée par de fausses informations, et donc non éclairée, voire organisée afin d'amplifier les expériences sur le génome humain? Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré publiquement. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants, et entraver le travail des organisations non gouvernementales, des défenseurs du droit humain, des journalistes, des avocats, des militants, des professionnels de la santé, ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites, et des mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures ou le manque de mesures. Les restrictions servent d'excuses pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants, et réprimer les critiques. L'accès à l'information vitale a été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été amplifiée, y compris par certains dirigeants. 8. Dès les faits. Principes applicables en droit. 1. Le périmètre du crime contre l'humanité en droit international. Si le droit coutumier détermine le type de conflit requis pour désigner un crime contre l'humanité, sa prohibition fait nécessairement partie du droit international coutumier. Le crime contre l'humanité n'existe pas seulement à travers sa codification, il s'inscrit dans l'ordre international comme une règle coutumière lui permettant d'interagir de manière plus étroite avec la morale internationale qui s'est développée depuis le XIXe siècle. Le crime contre l'humanité n'est donc pas une infraction figée et emprisonnée des textes. Son caractère coutumier lui permet d'évoluer et de s'adapter à l'évolution des mœurs de notre société. Ces définitions conventionnelles paraissent alors être une application concrète et limitée de ce que recouvre l'infraction coutumière de crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité n'est pas constitué d'une infraction qui lui est propre mais d'une série d'infractions. La notion même d'infraction de crime contre l'humanité relève donc de l'assouvissement moral d'une indignation collective, un assouvissement moral qui doit s'en remettre entièrement au droit international pénal. Le crime contre l'humanité s'inscrit essentiellement dans l'ordre international comme une infraction de droit international pénal. Le droit international pénal, c'est-à-dire le droit qui protège les intérêts de la communauté internationale pour lequel les grandes valeurs de l'humanité sont en droit d'origine coutumière. 2. Ainsi, en son article 7 de la CPI, constitue un crime contre l'humanité, l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. 1. Jugement du SCOTADEC du 7 mai 1997, paragraphe 623. 2. Jean-François Rouleau, le crime contre l'humanité, l'Harmattan, page 178.